Bonjour, vous avez bien rejoint Mélissa Lévesque, une fille en business. Je suis présentement occupée à suivre mes étincelles créatives, mais je vous invite à garder la ligne pour un épisode de podcast riche en leçons, en réflexions et en histoires. Sur le podcast, j'ai des discussions en profondeur avec des humains créatifs, lumineux et ambitieux. C'est aussi mon journal entrepreneurial où je partage mes histoires et mes réflexions parce que j'ai compris avec les années que plus c'est personnel, plus c'est universel. Restez à l'écoute, l'épisode commencera après le bip! Aujourd'hui sur le podcast, je reçois Audrey Lagacé qui est nutritionniste que je suis sur les médias sociaux depuis un bon bout de temps. En fait, c'est ce qu'on s'est dit en se rencontrant virtuellement. En début d'épisode, on se disait on se connaît, mais on se connaît pas du tout. Donc, c'était vraiment cool d'avoir cette discussion-là avec elle, de connaître son parcours, son histoire. On a parlé de tellement de choses. On a parlé, entre autres, de sa vision de son métier dans une ère où il y a tellement de désinformation sur les médias sociaux, il y a tellement de discours contradictoires entourant un paquet de sujets, dont la nutrition qui est son expertise. On a parlé de sa stratégie sur les médias sociaux. On a parlé d'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Donc, ça a été une très belle discussion que je vous laisse écouter tout de suite. Audrey, bienvenue sur le podcast Une fille en business. Comment ça va?
Allô, Mélissa, ça va super bien, toi?
Bien, ça va très bien. Vraiment contente de te recevoir sur le podcast parce que, je l'ai probablement dit en intro, mais tu sais, toutes les deux, on se connaît, mais on se connaît pas tant. Fait que là, j'ai comme plein de questions pour toi. On dirait que il y a plein de trucs que je veux qu'on creuse ensemble. Donc, très heureuse que tu sois là.
Bien, c'est vraiment un honneur, honnêtement, Mélissa, parce que honnêtement, c'est ça. Moi, ça fait un moment que je te connais, que je te suis, en fait, là. Quand tu es partie le podcast Une fille en business, moi, dans le temps. Moi, je travaillais à l'hôpital dans ce temps-là. Ça fait déjà, mon Dieu, ça fait un bout parce que tu vois, ça fait comme 3 ans et demi que je suis à mon compte.
OK.
Puis quand je travaillais à l'hôpital, bien, à chaque fois que je m'en venais en auto, j'écoutais ton podcast puis j'avais comme un peu le rêve de me partir à mon compte. Fait que pour vrai, t'as vraiment été comme un moteur de changement pour moi, là. Fait que.
Wow!
Ouais.
Ah, mon Dieu, tu me dis ça, puis j'ai comme des frissons. Je suis comme, hey, c'est beau! Je suis contente de savoir ça, puis de savoir que t'es là depuis le début à écouter le podcast. Puis aujourd'hui, ben, t'es invitée. C'est très cool.
Ouais, vraiment. Mais quand tu m'écris, là, je me dis, oh mon Dieu, c'est vraiment. C'est un drôle d'adon parce que je t'aurais écrit justement pour venir. Fait que j'étais vraiment contente.
C'est un excellent timing, je pense. Puis là, d'ailleurs, tu as mentionné que à l'époque que tu as commencé à écouter le podcast, tu travaillais à l'hôpital. Fait qu'est-ce que tu peux peut-être juste te présenter brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas?
Oui, absolument. Dans le fond, moi, je suis nutritionniste diététiste. J'ai gradué là, en décembre 2016, en fait, de l'Université Laval. Et dès la fin de mes études, j'ai commencé à travailler là, à l'hôpital là, de ma région, là, si on veut. Puis, j'ai travaillé à l'hôpital pendant à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Fait que jusqu'en octobre 2020, là, pendant la pandémie.
OK.
Ouais, c'est ça, j'ai comme eu là, le déclic. J'ai eu envie d'essayer autre chose. Tu sais, moi, je suis un peu comme toi, là, je suis très créative. J'avais comme ce besoin-là de créer quelque chose d'autre, ma petite entreprise finalement.
Ouais.
Fait qu'en octobre 2020, j'ai décidé de partir à mon compte. Ça a été très terrifiant, là, je dois dire. Beaucoup de défis. Puis encore aujourd'hui, là, tu sais c'est quoi être entrepreneur.
Oui.
Fait que c'est ça. C'est beaucoup de défis au quotidien, mais honnêtement, je suis vraiment, vraiment contente de cette décision-là. Puis c'est très gratifiant aussi, tu sais, de savoir qu'on vit de ce qu'on fait. Puis ouais.
Ouais. Si on retourne juste à la base, avant que tu te lances à ton compte, tu dis que tu as étudié en nutrition, tu as travaillé en hôpital, mais qu'est-ce qui a fait en sorte, qu'est-ce qui t'a amené dans le milieu de la nutrition à la base? Ça a été quoi, mettons, l'étincelle qui t'a allumé par rapport à ce domaine-là?
Oui, bien moi, depuis que je suis très jeune, je sais que je veux aller en nutrition. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a eu un moment où je ne savais pas que ça existait vraiment, tu sais, être nutritionniste.
Ouais.
Mais à partir du moment où j'ai compris que ça existait, là, je dois dire à peu près vers peut-être milieu du secondaire environ, là, je savais que je voulais être nutritionniste. pas nécessairement pour les bonnes raisons, j'ai envie de dire, là.
OK.
Ouais, à ce moment-là, j'avais pas une relation qui était très saine avec la nourriture, avec mon corps. Donc, tu sais, j'avais pas un trouble alimentaire, là, mais j'avais clairement comme une relation conflictuelle, une relation troublée avec la nourriture. Moi, je voulais vraiment comprendre comment on faisait pour perdre du poids. Puis c'est ça, j'avais eu des périodes où c'est ça, j'essayais d'en perdre. J'étais souvent au régime, des choses comme ça. Je me pesais là, à tous les jours. C'était vraiment très, très, on va dire, obsessif là, à ce moment-là.
OK, je comprends, ouais.
Ouais. Fait que c'est un peu ça qui a fait en sorte que j'ai décidé d'aller en nutrition finalement. Fait que c'est pour ça que je dis pas nécessairement pour les bonnes raisons, mais en même temps, c'est un peu ce qui m'a amené aussi à vouloir travailler plus au niveau de l'alimentation intuitive, parce que c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais je travaille avec l'approche qui s'appelle l'alimentation intuitive, qui est une approche bienveillante de l'alimentation, là, qui vise justement une saine relation avec la nourriture, avec le corps. Fait que c'est ça. Fait que quand j'étais plus jeune, tu sais, je savais que je voulais aller en nutrition, mais je savais aussi que j'aimais cuisiner, mais c'était pas tellement quelque chose que j'avais développé tant que ça. C'est vraiment là, quand j'étais allée à l'université que là, j'ai appris vraiment à cuisiner en écoutant aussi les émissions comme Cuisine futée, Parents pressés, des choses comme ça. Que là, je sais pas s'il y en a qui se souviennent de cette émission-là avec Geneviève Augleman. Là.
Oui.
Mais ouais, puis à travers mes cours aussi en cuisine, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai développé une passion aussi pour cet aspect-là. Ouais, vraiment.
Ben, c'est beau parce que, tu sais, oui, à la base, ça partait peut-être de mauvaises raisons, comme tu l'as dit, mais au final, probablement qu'il fallait que tu passes par là pour justement venir corriger peut-être ton rapport à l'alimentation, au final.
Oui, ouais, vraiment. Mais, tu sais, d'ailleurs, pendant mes études, là, j'ai comme réalisé que l'alimentation, la nutrition, tu sais, c'était beaucoup plus que des nutriments, des calories, tu sais, qu'on mangeait pas juste pour nourrir notre corps de façon plus... j'ai envie de dire fonctionnel, là, plus de façon en termes de nutriments, mais qu'il y a un aspect aussi psychologique autour de ça. On mange pour créer des souvenirs, on mange aussi pour avoir du plaisir. Fait que c'est pour ça que l'approche, pour moi, fait vraiment du sens aujourd'hui.
Ben, totalement, je comprends donc.
Oui, vraiment.
Puis par la suite, tu sais, est-ce que... Tu sais, tantôt t'as mentionné que t'écoutais le podcast, fait que ça t'a un peu éveillé à l'entrepreneuriat, mais est-ce que t'avais déjà un peu cette petite flamme-là dans toi qui se disait qu'un jour t'allais travailler à ton compte, ou c'est vraiment arrivé plus tard dans le parcours?
C'est une bonne question, parce que je pense que je voulais depuis un moment partir à mon compte. T'sais, j'ai toujours eu un peu, comment je pourrais dire ça? T'sais, je me souviens quand j'étais jeune, je disais à mes amis... on pourrait se partir telle entreprise, ça, c'est un peu à la blague, si on veut. Mais je pense que j'avais un peu ce désir-là quand même d'entreprendre quelque chose. Est-ce que j'ai toujours eu cette fibre-là? Je suis pas certaine, c'est dur à dire pour moi, mais clairement, là, dans mes années, tu sais, même, j'ai envie de dire, peut-être après 6 mois là, que je travaillais à l'hôpital, là, je savais qu'il y avait comme probablement autre chose là, qui pouvait s'ouvrir à moi, c'est plus quelque chose de créatif. Parce que ce que je faisais à l'hôpital, tu sais, c'était moins... c'est ça, tu sais, il y avait moins l'aspect créatif, c'était plus... Tu sais, on sait c'est quoi, là, tu sais, être encadré c'est sur un certain cadre, on n'a pas la liberté qu'on veut, puis c'est vraiment ça que je voulais. Puis, fait que c'est ça. Puis quand j'écoutais tes podcasts, tu sais, avec les invités, puis ça, je me disais, oh mon Dieu, moi aussi, j'aimerais tellement ça, être plus libre de mon temps, décider des projets que j'ai envie d'entreprendre... parce que c'est aussi ça, tu sais, c'est ça qui est le fun en étant entrepreneur, c'est qu'on peut nous-mêmes décider de qu'est-ce qu'on veut faire. Des projets qui nous allument, puis des fois, on évolue aussi en vieillissant, puis on change de branche tout simplement, puis c'est correct aussi, tu sais, se donner le droit de changer.
Ben, 100%, puis je pense qu'il y en a... Je ne veux pas dire la majorité, même si en dedans de moi, j'ai un peu ce feeling-là, la majorité des entrepreneurs commencent justement en ayant un emploi un peu plus traditionnel, puis à un moment donné, on se rend compte que, oups, finalement, il y a autre chose, puis on a ce besoin-là de liberté, de contrôler un peu plus les projets sur lesquels on travaille, d'être moins encadré par d'autres personnes. Fait que c'est un parcours qui fait du sens, là, vraiment.
Mm-hmm. Ouais.
Puis quand tu t'es lancé, est-ce que... c'était vraiment rapide sur un coup de tête? Ben, un coup de tête, c'était déjà réfléchi, mais est-ce que tu as fait ça un peu rapidement ou tu avais déjà genre plan d'affaires puis tout?
Ouf.
C'était quoi? Tu mettons, là, je te donne deux extrêmes, ça se peut que tu étais dans le milieu, là.
Oui. Ben, en fait, j'avais commencé déjà graduellement à prendre des clients en consultation au privé, parce que moi, j'avais un remplacement qui était 4 jours semaine. En passant, désolée pour ma voix un peu malade. c'est ça. Fait que j'avais un remplacement qui est comme qui était 4 jours semaine. Fait que moi, je faisais comme une journée par semaine de consultation individuelle à ce moment-là. Ouais. Fait que je pense que j'avais commencé ça à peu près là, vers janvier 2020, là, justement. Puis tranquillement, pas vite, bien, j'avais de plus en plus de demandes de consultation. Fait que c'est sûr que tu sais, c'était comme limité un petit peu le nombre de clients que je pouvais prendre là, en consultation privée. Fait que là, il fallait comme que je prenne une décision, puis moi, je ne pouvais pas réduire mon nombre de jours par semaine travailler à l'hôpital parce que j'avais un remplacement. Fait que c'était comme pas possible à ce moment-là. Mais par contre, si j'avais pas fait de plan d'affaires, c'était clair pour moi que j'avais besoin d'autres choses, puis on dirait que j'avais un peu envie de me... Je recommande pas ça nécessairement, mais j'avais un peu envie de me voiler la face, c'est parce que je me disais, ah, je me débrouillerai, tu sais, si jamais ça marche pas. T'sais, j'aime mieux me débrouiller plutôt que de me rendre compte que oh, ça se peut que ça... Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là,
mais... Totalement, parce que je me reconnais à 100%. Ouais. Tu dis ça, puis je suis en train de penser, c'est exactement ça, mais je pense qu'on a l'avantage... Puis en même temps, je ne connais pas ta vie et ta situation. Peut-être que je me trompe, mais moi, quand je me suis lancée, j'avais l'avantage que, oui, je me voilais un peu, mais en même temps, je me disais, j'ai pas grand-chose à perdre. Je suis quand même dans une situation où... Au pire, si ça ne fonctionne pas, il y a d'autres solutions qui s'offrent à moi. Tu sais, je ne serai jamais complètement dans le trouble. Alors que peut-être plus tard dans ma vie, ben là, ça va être plus engageant de faire ce genre de move-là. Je ne sais pas si c'était ça un peu ta situation.
Ouais. Ben, c'était exactement ça, comme tu le dis. Tu sais, parce que ben, tu sais, moi, je n'ai pas d'enfant. Puis ça, puis à ce moment-là, j'étais en appartement. Fait que je me disais, c'est quoi le pire qui va arriver? Tu sais, c'est que je retourne à l'hôpital. C'est que tu sais, je sais qu'il manque de nutritionniste. Fait qu'au final... c'est pas grave, là, t'sais, il va toujours avoir des emplois, puis, fait que, t'sais, comment ça s'est fait, en fait, c'est tellement spontané, c'est juste qu'un matin, je me suis dit, bon, ben là, c'est là que ça se passe, t'sais, faut que je fasse un, faut que je fasse un move, puis j'ai juste appelé mon patron pour dire que j'allais donner ma démission, finalement, puis, ouais, puis là, c'était comme en contexte pandémie, puis là, t'sais, c'est sûr qu'il y avait quand même certains besoins. Fait que finalement, ils ont comme accepté là, que je travaille 2 jours par semaine là, pendant un certain temps. Fait que pour moi, ça a été quand même aidant aussi là, pour me partir à mon compte. Là. Mais c'est sûr que les premiers temps, là, je me souviens que la première journée, quand j'étais vraiment à mon compte, je me disais, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les tâches? Qu'est-ce qui se passe? Fait que...
Ben, je suis contente que t'en parles parce qu'on dirait que quand on regarde sur les médias sociaux ou qu'on écoute des histoires d'entrepreneurs, on dirait que jour 1, tout le monde est super occupé puis c'est exactement quoi faire. Mais moi aussi, là, je me rappelle, la première journée, j'étais comme « Ok, je suis libre, donc faut que j'en profite avec des activités autres que la business. » Mais en même temps, il faut que je fasse avancer les choses. Fait qu'on dirait que c'est comme cette première journée et ces premières semaines-là, c'est un peu bizarre. T'sais, on sait vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Là.
Vraiment. Non, mais c'est vrai. T'sais, tu te fais une to-do list puis tu n'as presque rien dessus, mais tu te dis OK, c'est quoi les étapes dans le fond? Il n'y a pas de mode d'emploi de bon, il faut que tu fasses telle chose, telle chose, telle chose. Puis c'est un peu pour ça que moi, j'ai décidé de faire un cours là, en lancement d'entreprise après ça parce que je me suis rendu compte à quel point je connaissais rien. Là. Ça m'a vraiment aidée, là, honnêtement.
Ah ouais, hein?
Oui.
Fait que ça, tu l'as fait tout de suite quand tu t'es lancée, dans le fond, dans les mois qui ont suivi?
Oui, exactement. Là, si je ne me trompe pas, il me semble que ça a commencé aussi en octobre. Là, fait que ça tombait pas mal. Oui, c'est ça, au même moment où je suis partie. Là, fait que c'est un cours de 12 semaines. Fait que c'était vraiment bien, là, honnêtement. T'sais, on apprenait vraiment tout sur les finances, c'est comment bâtir un plan d'affaires. Bref, c'était assez complet, là. Fait que...
Oh, wow! Ouais. C'est intéressant. C'est vraiment cool. Puis c'est encore une fois, un bon timing pour que tu aies fait « Bah, gars, je me lance! » Mais au moins, j'ai ça qui va vraiment venir m'informer sur comment la rallonger, la to-do list qui a presque rien au jour 1, là.
Exactement. Oui, c'est ça. Oui, exact.
Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu aussi de, là, maintenant, c'est quoi ton offre, c'est quoi ton modèle d'affaires qui a quand même évolué à travers les années, là?
Oui, ça a quand même vraiment évolué, honnêtement. Là, en ce moment, j'offre de la consultation individuelle encore. Je dis encore, là, mais je compte encore en offrir, là, mais c'est juste parce que ça a diminué un petit peu mes disponibilités là, avec le temps, étant donné que j'ai augmenté là, mon offre de services. Oui. J'offre aussi un programme de groupe. Fait que ça, c'est quelque chose que ça faisait longtemps. Mon Dieu, ma voix, c'est épouvantable. Fait que ça faisait longtemps que je voulais l'offrir. Fait que je suis vraiment contente aussi. Je fais maintenant des ateliers culinaires aussi dans les écoles. Fait que là, j'ai eu un beau contrat, là, justement, là, de janvier jusqu'à la fin avril. Okay. J'offre là, presque 50 ateliers culinaires dans des écoles. Fait que c'est vraiment le fun. Wow! Ouais, vraiment, cool. Merci. Je suis vraiment contente. Puis j'espère vraiment qu'il va y avoir d'autres écoles aussi qui vont vouloir offrir ce genre de service-là. Parce que je pense vraiment que c'est dès qu'on est jeune, c'est qu'on apprend autant au niveau des saines habitudes de vie que apprendre à cuisiner et tout ça. Fait que ça, j'espère vraiment que ça va être quelque chose qui va pouvoir continuer dans le futur. Sinon, j'ai aussi un cours sur la planification des repas parce que pour moi, c'est super important d'aider les gens autant à avoir du plaisir à manger qu'à cuisiner, à rendre ça simple. Fait que c'est pour ça que ça passe par la planification des repas aussi. Fait que j'ai décidé de créer un cours, là, ce qui est vraiment enregistré. Puis sinon, ça ressemble pas mal à ça. Je fais un petit peu de création de contenu culinaire là, de temps en temps, mais c'est pas quelque chose qui prend là, la majorité de la place. Puis j'offre aussi un service de conférence, c'est vrai. Des conférences en entreprise, dans les écoles aussi. Fait que ça, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement aussi.
OK, wow, c'est cool. Je savais un peu, c'est ça, programme, le cours, consultation, mais c'est très hot pour toutes les autres opportunités aussi qu'il y a autour de ça. Puis tu dirais qu'en ce moment, c'est quoi le service principal qui est le plus peut-être en demande, qui occupe le plus tes journées au final?
Bien là, si mettons, on regarde, il y a 3 mois, je t'aurais dit plus les consultations individuelles.
OK.
Mais là, en ce moment, c'est plus les ateliers culinaires là, qui me prennent plus de temps.
Okay.
Dans mon quotidien, là, fait que j'aime vraiment ça, ouais.
Puis, je suis curieuse, ça ressemble à quoi un peu, mettons, ces ateliers culinaires-là? Est-ce que tu veux nous en parler?
Certainement.
C'est un secret, c'est
correct. Non, il n'y a rien de secret là-dedans. Dans le fond, une journée d'atelier culinaire, c'est que, moi, je vais faire l'achat des ingrédients, fait que je détermine c'est quoi les recettes qu'on va faire. Fait que c'est sûr que j'essaie d'aller vers des recettes qui sont autant nutritives, tu sais, qui développent aussi la motricité, tu sais, pour les jeunes, parce que c'est des jeunes du primaire, là, dans le fond, qu'on va faire les ateliers en ce moment. Ouais. Ensuite de ça, une fois que l'achat est fait, des fois, il y a un peu de pré-préparation à faire. Fait que ce que je veux dire, mon Dieu, excuse-moi ma voix, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau.
Ben oui, vas-y, c'est bien correct.
On va s'en sortir.
Ben oui.
T'sais, je manque jamais de voix, mais là, aujourd'hui, c'était comme ça. Fait que c'est ça. Fait que je fais un petit peu de pré-préparation. En fait, ce que ça veut dire, c'est que je vais couper des fois là, des légumes, je vais laver, par exemple, des fruits, des choses comme ça, pour que ça se distribue bien aussi là, pour chaque équipe là, et tout ça. Ensuite de ça, là, j'arrive là-bas, puis là, je viens vraiment tout installer. Là, l'école a déjà en place là, tout ce qu'il faut là, pour faire la coupe des aliments, pour faire les planches à découper, tout ça. Ils ont tout l'équipement finalement. Fait que ensemble, là, dans le fond, je leur montre comment faire la recette, je leur explique c'est quoi les ingrédients, comment couper, comment mesurer, comment cuisiner, tout ça. Puis, ensemble, on fait la recette. Fait que pour les plus petits, c'est sûr que c'est différent là, des plus vieux. Là. Fait que pour les plus petits, on les accompagne un petit peu plus, mais pour les plus vieux, ils peuvent vraiment suivre les recettes là, par eux-mêmes. Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi.
C'est tellement hot, là. Tu parles, puis je suis comme, j'ai manqué mon enfance, on aurait dû avoir ça.
Mais tellement, là, pour vrai, moi aussi, je me disais ça, là, tu sais, quand je me disais, oh mon Dieu, j'aurais tellement aimé ça avoir ça, tu sais, quand on était au primaire.
Puis probablement que ça aurait évité tellement d'enjeux, justement, par rapport à la nutrition puis à l'alimentation. Ouais. Justement, dans notre adolescence, tu parlais que tu n'avais peut-être pas la relation la plus saine avec l'alimentation. Puis, tu sais, aussi, je sais que je me posais des questions, mais c'était pas des questions saines. C'était justement comment perdre du poids, comment bien paraître, comment être capable de manger le moins possible, mais d'être le plus efficace. Tu sais, c'est comme tout le temps des trucs comme ça, mais dans le fond, de rediriger les questions, juste ça aurait été un bon premier pas, là.
Oui, vraiment. Puis, tu sais, pendant les ateliers, ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, la façon que j'apporte, tu sais, la façon que je parle des aliments, tu sais, je ne vais jamais parler d'aliments santé ou pas santé, ou, tu sais, on est vraiment plus dans la neutralité. Puis, on voit justement le plaisir de manger, que c'est correct qu'à certains moments, il y ait des aliments plus sucrés, plus salés ou plus gras, mais que la plupart du temps, on essaie d'aller vers des aliments là, qui sont plus nutritifs, c'est quoi les avantages d'acheter de l'avoine, par exemple, dans une recette ou des graines de lin moulu, des choses comme ça. Fait que ouais, c'est vraiment intéressant pour ça.
Tellement intéressant. Ouais. Puis, je suis curieuse de savoir, tu sais, il y a quand même un grand volet de ton entreprise qui est de faire l'éducation, qui est éducatif. Puis, je me demande, tu sais, en ligne, en 2024, comment tu vois ça? Comment tu deals avec le fait de proposer du contenu éducatif alors qu'on est bombardé de tellement d'informations, souvent contradictoires, de tous bords, côtés, en lien avec tellement de choses, mais surtout en lien avec la nutrition? Bon, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas, mais moi, je vois tellement de ce genre de contenu-là.
Oui, j'avoue que ça, cet aspect-là, c'est pas quelque chose que je trouve facile, honnêtement. Parce que effectivement, il y a tellement de désinformations en nutrition, puis moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui aime la confrontation dans la vie, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, de venir, démystifier certaines choses parce qu'on voit, par exemple, un influenceur qui parle de quelque chose. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là, tu sais, de faire un genre de duo. Je pense à TikTok, là, mettons.
C'est ça que je pensais aussi. Là, on en a vu beaucoup récemment qui, justement... Ouais. Exposer une situation d'un influenceur ou de quelqu'un qui a des propos qui sont pas des propos qui sont justes, qui venait un peu répondre à ça.
Exactement, oui. Puis ça, c'est. J'encourage vraiment les gens qui sont capables de le faire à le faire. Mais pour moi, c'est pas mon genre de faire ça. Là. J'aime pas ce genre de confrontation-là. Fait que moi, je préfère vraiment comme éduquer de façon. Comment je pourrais dire, plus sur ma plateforme, en même temps, ça me donne quand même des idées de contenu à créer à ce moment-là, si je vois un influenceur qui vend, par exemple, on dit influenceur, là, mais rien contre les influenceurs du tout. Là,
tout le monde est un peu influenceur à sa façon, de toute façon. Là, quand on parle d'influenceur, on ne parle pas nécessairement de gens qui ont des milliers d'abonnés, ça peut être quelqu'un qui fait juste avoir un propos, puis tout d'un coup, tout le monde a consommé cette seule vidéo-là. Tout le monde est un peu influenceur.
Oui, c'est ça, exactement. Mais dans le sens où, disons qu'il y a quelqu'un qui vend des suppléments, des détox, quoi que ce soit, moi, je vais peut-être plus orienter mon contenu de la semaine sur, justement, les mythes de la détox et tout ça. Fait que je vais plus de cette façon-là. Plutôt que de façon à confronter, là, comme je le disais. Là, Fait que c'est la façon que je préfère. Puis, tu sais, j'aime mieux comme apporter ça de façon un petit peu plus positive que, tu sais, je sais pas. Là. À travers le temps, ça a changé aussi ma façon de partager mon contenu, là, j'aimerais dire. Là.
Ah ouais, hein? Qu'au début, tu étais dans cette confrontation-là ou...
J'étais beaucoup, tu sais, dans le anti-diète, tu sais, beaucoup dans le... Tu sais, on dirait que j'en voulais comme à la société de tu sais, nous partager autant d'informations axées sur la culture des diètes. Puis ça, tu sais, j'étais beaucoup... Je voulais que les gens comprennent que ça n'a pas de bon sens, tu sais, nous mettre dans la tête qu'il y a comme juste un standard de beauté, tu sais, puis tout ça. Fait que j'allais vraiment plus c'est ça, c'était différent comment j'apportais mon contenu. Puis aujourd'hui, tu sais, j'aime mieux justement mettre de l'avant le plaisir de manger, démystifier certains mythes, mais c'est ça, plus mettre de l'avant les aspects plus positifs, si on veut, de l'alimentation,
Je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, moi, je le vois vraiment comme il y a ceux qui vont venir déconstruire un message qui est erroné, puis il y a ceux qui vont construire, un peu comme toi, leur propre message, qui n'est pas nécessairement en réaction à d'autres propos, mais qui est quand même influencé par ces propos-là. Je trouve qu'il y a une approche qui est très, très bienveillante, finalement, dans cette façon de faire-là.
Oui, moi, je me sens mieux avec ça. Puis, tu sais, je pense que tout le monde a comme sa façon de procéder. Puis, avec le temps, on dirait que je me suis rendu compte que ça m'amenait moins d'anxiété aussi, parce que ça, c'est aussi un défi avec lequel je navigue au quotidien.
Ah, ouais, hein?
Ouais, quand même. Comme beaucoup de gens, je pense.
Est-ce que c'était quelque chose qui t'habitait déjà avant de te lancer en entrepreneuriat ou c'est venu un peu avec ça?
Ah, non, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment présent avant. Mais là, c'est sûr qu'avec l'entrepreneuriat, je pense que ça l'a un petit peu augmenté, mon anxiété, à certains moments, là, je dois dire, mais en même temps, je suis plus heureuse aussi, tu sais, depuis que je suis à mon compte. Mais c'est sûr que ça me challenge beaucoup, tu sais, sur certains aspects. Comme par exemple, tu sais, moi, parler en public, c'est quelque chose qui est quand même difficile, honnêtement. Mais j'offre des conférences. Oui, c'est ça. Fait que c'est assez contradictoire, mais pour moi, c'est super important de sortir de ma zone de confort puis quand même de continuer à le faire pour que ça devienne de moins en moins anxiogène. Puis ça fonctionne vraiment, honnêtement. Plus je le fais, moins ça me rend anxieuse. Fait que,
C'est tellement, c'est un peu ça hein, qu'il faut faire, c'est de dire, OK, mais plus on le fait, puis j'en ai parlé dans l'épisode avec Fanny qui a été publié, là, je sais plus quand, mais où on parlait de la notion d'effort puis de compromis. Oui. On disait, plus on répète une expérience positive, puis que ça se passe de façon positive, bien plus ça devient une expérience positive. Exact. Pour les prochaines fois qu'on a à le faire. Fait que, tu sais, j'étais comme surprise que tu me dises ça, que de parler en public, c'était moins ta tasse de thé, mais en même temps, je suis comme, ben moi aussi, en fait, tu sais, je suis quand même quelqu'un de très réservé, mais tu sais, j'anime un podcast, je donne des formations, puis c'est de moins en moins difficile avec le temps.
C'est ça. Oui, vraiment. Puis je pense que, ben tu sais, on n'est pas obligé de sortir de notre zone de confort tout le temps, mais je pense que c'est important, tu sais, surtout si on veut faire le métier qu'on fait, tu sais, si on a du plaisir à le faire, tu sais, c'est ça, il faut s'exposer, puis ça devient de moins en moins anxiogène, puis on a plus de plaisir aussi à le faire avec le temps. Là.
Ben oui, puis je pense que le fait aussi que tu connais tellement bien, t'amènes une partie de ta zone de confort en dehors de cette zone de confort-là, dans le sens où tu t'en vas pas faire une conférence sur le réchauffement climatique, que t'es comme « Ah, je sais pas trop ce que je vais dire! » Tu t'as vraiment... C'est ta zone de génie, finalement, que tu vas venir apporter, fait que probablement que c'est... Ça venait apaiser un peu cette anxiété-là de devoir t'adresser à une salle.
Ben oui, vraiment. Tu sais, je sais que je connais bien mon contenu. Je sais que la nutrition, je connais ça. C'est mon domaine. Fait que ça, tu sais, ça me stresse pas tellement. Mais c'est plus, c'est le... Bon, mais OK, est-ce que je vais parler convenablement? Est-ce que je vais être capable de partager mes connaissances, tu sais, d'une bonne façon? Est-ce que je vais m'enfarger dans mes mots? Qu'est-ce que les gens vont penser? Tu sais, c'est toujours les mêmes questionnements qui reviennent...
Depuis le début du podcast, je t'écoute parler, puis je suis comme, on n'est juste pas dans le même domaine, mais sinon, on a un parcours qui se ressemble, on a des enjeux, des défis qui se ressemblent. Je suis comme, ça fait du bien aussi de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui, justement, sont pas... Tu sais, je suis beaucoup en contact avec des gens qui font à peu près la même chose que moi, mais toi, je sais qu'on fait pas du tout la même chose. Pourtant, on vit quand même les mêmes choses à travers ça.
Je pense qu'on est honnêtement beaucoup qui vivent ça, tu sais. Je pense qu'on est plusieurs, tu sais, qui vivent les mêmes choses. Puis, tu sais, moi, quand je me suis partie à mon compte, je sais pas si t'avais un peu ce feeling-là, Mélissa, là, mais moi, j'avais l'impression que j'étais pas une vraie entrepreneur, tu sais. Puis même encore aujourd'hui, je regarde d'autres entrepreneurs et je me dis, ah, tu sais, est-ce que je suis une vraie entrepreneur, tu sais? Est-ce que je me sens pas comme tout le monde, tu sais, qui... Je sais pas comment l'expliquer. C'est peut-être un peu de syndrome de l'imposteur à travers ça. Mais il y a certains
Je peux comprendre, puis il y a aussi, moi j'ai remarqué dans les dernières années, probablement juste parce que je suis un entrepreneur que je le remarque plus, mais l'espèce de discours des gens qui sont, puis là, je mets vraiment des gros guillemets, là, mais qui sont des vrais entrepreneurs, qui vont un peu, j'ai l'anglicisme, qui vont un peu shamer les travailleurs autonomes en disant « vous n'êtes pas des vrais entrepreneurs ». Puis, je comprends que, tu sais, les enjeux sont différents, je comprends que c'est différent, mais reste qu'être travailleur autonome, c'est être entrepreneur. C'est pas nécessairement être travailleur autonome, tu sais, ça va juste dans un sens, mais je pense que cette espèce de discours-là un peu culpabilisant de faire « Ah, ben vous n'êtes pas des vrais entrepreneurs », ça fait probablement en sorte que beaucoup de gens qui ont ce sentiment d'imposteur-là dont tu parles, je pense qu'il y a un petit travail probablement d'éducation ou de juste rendre ce discours-là un peu plus bienveillant, de faire « Hey, qu'est-ce que ça change que je me dise entrepreneur? » Parce que, en mon sens, on est autant entrepreneur, toi et moi, que la majorité des entrepreneurs, là, au final.
Mais tellement, tu sais, c'est pas parce qu'on n'a pas une grosse entreprise, tu sais, avec... des milliers d'employés qu'on n'est pas entrepreneur, là, je veux dire.
Ben non, parce qu'au quotidien, nos tâches restent la même chose, tu sais. On doit aller chercher des clients, on doit faire du marketing, on doit faire notre comptabilité. On a les mêmes tâches, peut-être à une échelle différente, mais au final, c'est relativement similaire, là.
Oui, exact,
Je suis contente qu'on en parle, parce qu'on dirait qu'à chaque fois, moi, ça vient un peu me blesser à chaque fois que je vois ce genre de post-là, parce que je me dis, bon, OK... Moi, j'ai un peu passé par-dessus ça, mais je pense à plein de mes amis qui se lancent puis qui voient des trucs comme ça puis qui ils se disent « Ah ben, je serai jamais entrepreneur. » Puis en même temps, est-ce qu'on est obligé de se donner vraiment ce chapeau-là puis ce titre-là? Là? Non mais plus, non, sauf ça. Que ça vient quand même alimenter ce sentiment d'imposteur-là qu'on veut donc bien essayer de fuir, justement.
Ouais, exactement. Ouais, je pense que l'important, c'est juste qu'on fasse ce qu'on aime, point. Et puis après ça, ben c'est ça. Je pense que c'est ça qui est important. Oui.
Oui, 100%. Puis là, tu dis que c'est important de faire ce qu'on aime, mais moi, j'ai envie de te challenger en te disant qu'en étant entrepreneur, il y a des choses qu'on aime moins qu'on doit faire. Puis j'ai envie de savoir, toi, c'est quoi tes... Les, ben, sans parler de tâches spécifiques, mais tu sais, les défis que tu as au quotidien, les trucs que tu fais comme ça, c'est vraiment moins le genre de choses qui me plaît, là.
Oui. Mon Dieu, j'en ai beaucoup quand même. Mais tu sais, des défis, je veux dire, là, pas des affaires que j'aime pas. Sinon, je ne ferais pas le travail que je fais.
Mais non.
Mais tu sais, c'est sûr que moi, tout ce qui est comptabilité, j'ai décidé de déléguer ça là, dernièrement. Là. Fait que tu sais, je pense qu'il était temps quand même. Parce que c'est ça, c'est quelque chose que, oui, je suis quand même à l'aise avec les chiffres. Puis je pense que c'est important de connaître ces chiffres et tout ça. Mais tu sais, j'accumulais comme tout le temps un peu de retard dans ma comptabilité et tout ça. Puis. C'est ça, j'ai plus le côté créatif que le côté chiffre et tout ça. Fait que moi, ça, c'est ça, tu sais, je pense que ça teinte un peu ma personnalité de comment je suis partie à mon compte. Tu sais, je suis un peu partie sans vraiment avoir de plan précis. Là. Fait que je pense qu'il y en a, tu sais, qui sont beaucoup plus terre-à-terre, qui vont calculer leurs choses, puis que je pense qu'il y a peut-être des meilleures façons de faire que d'autres, mais bon, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Là.
C'est juste des profils, je pense, qui sont différents, parce que, tu sais, ce qui est une force pour toi va être une faiblesse pour un autre, et l'inverse est aussi vrai. Fait que, tu sais, oui, quelqu'un qui maîtrise parfaitement sa comptabilité, c'est cool, mais est-ce que niveau marketing, ça se passe bien? Ben, peut-être pas, tu sais, c'est toujours ça, là.
Oui, effectivement, t'as raison. Parce que moi, tout ce qui est création de contenu, j'adore ça. Là. T'sais, c'est vraiment un plaisir.
OK.
Sinon, tout ce qui est, nous, en tant que nutritionniste, il faut faire une note au dossier là, après chacune de nos rencontres individuelles. Ça, c'est vraiment pas une partie que j'aime. Parce que, mine de rien, ça prend quand même beaucoup de temps. Là.
OK.
Ça a l'air de rien, mais tu sais, après chacune de nos rencontres, il faut... écrire ça sur une note de la rencontre. Si, mettons, il y a eu des prises de sang et tout ça, il faut prendre tout en note, finalement. Il faut faire une analyse. On a comme un plan de traitement à écrire aussi. Fait que ça prend peut-être grosso modo, là, j'ai envie de dire, entre 15 et 45 minutes, là, dépendamment de la rencontre. Oui, c'est ça. Puis là, il y a peut-être du monde qui font ça plus rapidement. Là, moi, je parle plus... personnellement, là. Sûr que ça prend un certain temps. Puis ça, c'est le genre de tâche que les gens ne pensent pas, tu sais. Quand on voit, par exemple, les tarifs de nutritionniste, il y en a qui se disent, hey, tu sais, c'est quand même dispendieux. Ou peut-être qu'il y en a qui se disent que ça va être du bon sens aussi. Mais il y a quand même un temps de travail, tu sais, après la rencontre, là, qui est calculé là-dedans aussi.
Oui, c'est ça. C'est pas juste le temps de la consultation qui vaut quelque chose au final. Là.
Exactement. Puis ça, ce côté-là, c'est moins ma tasse de thé, on va dire, là, le côté rédaction de la note au dossier. Mais on n'a pas le choix de le faire, là, malheureusement. On ne peut pas déléguer là, cette partie-là. Fait que,
OK, oui, je comprends. Ouais. Ça, c'est parce que, dans le fond, tu es régie par l'Ordre des nutritionnistes, c'est ça?
Exactement, l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Okay. Puis ça, d'ailleurs, c'est aussi un défi de... Je suis vraiment reconnaissante là, de faire partie de l'Ordre, mais ça nous amène quand même certains... comment je pourrais dire, tu sais, on a un code de déontologie à respecter.
Oui.
Donc, c'est sûr que côté marketing, on n'a pas tous les avantages là, de quelqu'un d'autre, là, par exemple, qui n'est pas régi par un ordre. Là, fait qu'entre autres, on ne peut pas utiliser des témoignages pour vendre nos services. Fait que ça, on sait que l'utilisation des témoignages, c'est quand même, une bonne façon de vendre nos services quand on voit... qu'il y a des gens qui ont acheté notre cours, par exemple, ou qui ont suivi notre formation, c'est comme, il y a quelque chose de sécurisant, tu sais, de savoir que nous aussi, on va acheter cette formation-là, puis qu'il y a des gens qui l'ont acheté avant nous, qui l'ont aimé, tu sais. Nous, on ne peut pas utiliser là, ces témoignages-là, alors que j'en reçois quand même beaucoup, là, en message privé, mais je n'ai pas le droit de les partager.
OK. Bien, en même temps, tu sais, mais ton point de vue marketing, je suis dans le domaine, fait que c'est sûr que je suis comme, c'est un gros morceau qui est enlevé, sauf que dans le domaine de la santé aussi, c'est un peu plus touché parce que tu sais, un témoignage, c'est d'exposer un certain résultat. Donc, c'est pour certaines personnes, ça pourrait être la promesse de ce résultat-là. Puis là, on parle quand même de santé, donc je comprends un peu la réflexion derrière ça. Puis d'ailleurs, je pense que l'utilisation des témoignages, des fois, pour d'autres types d'entreprises, est un peu comme sneaky de faire comme... voilà le plus beau témoignage que j'ai reçu. Ouais. J'en ai reçu un seul, mais c'est le plus beau. Donc, je vous le partage. Et là, les gens sont tout de suite convaincus que, OK, je vais avoir ce résultat-là moi aussi. Fait que, tu sais, les témoignages, ça a quand même c'est une médaille qui a deux côtés, comme dans n'importe quoi. Mais je comprends vraiment pourquoi c'est pas un outil que vous pouvez utiliser. Mais c'est quand même une contrainte aussi, là.
Ouais, c'est ça. Mais effectivement, je comprends aussi là, tu sais, pourquoi on ne peut pas utiliser ce genre de choses-là, parce que tu sais, l'ordre professionnel, il ne faut pas oublier qu'elle est là pour protéger le public. Elle n'est pas là pour protéger ses membres. Ça fait du sens aussi. Puis, c'est sûr que tout ce qui est là, par exemple, création de contenu aussi, on ne peut pas induire le public en erreur, tu sais, en créant du contenu pour une entreprise, par exemple, en s'associant avec une entreprise, c'est très. Du cas par cas, là, par rapport à ça. Là. Fait que là, je ne veux pas me lancer dans des exemples ou quoi que ce soit parce que je sais que ça a changé là, récemment. Mais c'est ça, il faut faire attention là, avec nos collaborations aussi. Là.
Ben oui. Ouais. Mais ça ne tombe pas à être trop limitatif dans ta création de contenu, outre, mettons, ces éléments-là. Est-ce que, mettons, quand tu crées du contenu, tu es vraiment toujours en train de penser à ça ou tu le crées puis après ça, tu réajustes aux besoins?
C'est sûr que j'ai toujours une petite pensée, tu sais, par rapport à ça, mais pour ma part, c'est assez rare que je fais des partenariats commerciaux, tu sais, avec des entreprises. Fait que je me pose moins la question. Mais il y a eu, tu sais, à certains moments où j'ai eu des offres que, tu sais, j'ai dû refuser, là, par exemple, parce que c'est clair que, tu sais, par exemple, des offres là, pour promouvoir certains suppléments ou des choses comme ça, c'est clair que je ne vais pas faire ce genre de partenariat-là. Là. Oui,
je comprends.
Mais il y a des choses qui sont un peu moins claires. Tu sais, je ne sais pas, moi, si une compagnie de yoga m'approchait pour faire un partenariat, tu sais, encore là, il faudrait que je contacte mon ordre, savoir si je pourrais, parce que c'est plus ou moins clair pour moi, là, je dois dire, là, qu'est-ce qu'on peut faire ou non.
Mais oui, puis tu sais, je veux pas non plus qu'on creuse nécessairement la question parce que je sais que c'est quand même complexe puis c'est pas nécessairement ça ton expertise. Mais j'étais juste curieuse de voir un peu, c'est ça, à quel point c'est contraignant pour quelqu'un. Ouais. Parce que tu sais, la plupart, ben, peut-être pas la plupart, mais beaucoup de nutritionnistes vont être dans un milieu de travail, vont être des employés. Fait que, tu sais, quand tu te lances à ton compte, ben là, c'est sûr que, oups, ça vient un peu changer la donne parce que, justement, il y a la portion de création de contenu que, tu sais, quand tu travaillais à l'hôpital, t'avais pas ça à faire. Fait que c'était comme, ah, OK, on s'en fout. Mais là, maintenant, c'est quand même une limite que tu dois garder à l'esprit. Là.
Oui, effectivement. Mais, tu sais, étant donné que c'est pas quelque chose que je fais fréquemment, c'est moins un enjeu pour moi. Mais c'est sûr que si ça avait été quelque chose que je voulais absolument, c'est un service que je veux optimiser, mais là, tu sais, ce serait probablement à revoir, là, à m'assurer que tout est correct à ce niveau-là. Là. Ouais,
je comprends. Puis là, on parle beaucoup justement de médias sociaux, création de contenu. Je suis curieuse de savoir un peu c'est quoi, ben là, je te demande pas les grands secrets de ta stratégie marketing, mais grosso modo, comment tu fais justement pour promouvoir tes services, développer ta clientèle? C'est quoi tes tactiques?
Oui, bien, tu sais, moi, j'y vais assez de façon instinctive, je dois dire, parce que, comme je disais tantôt, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, la création de contenu. Souvent, ce que je vais faire, c'est que, tu sais, une fois par semaine, je m'assois puis je regarde, mais qu'est-ce que je pourrais partager la semaine prochaine? T'sais, je regarde un peu ce qui s'en vient et tout ça. Puis là, si par exemple, il y a des dates importantes et tout, là, je crée mon contenu vraiment juste une semaine d'avance. T'sais, je sais qu'il y en a qui vont le faire un mois ou deux d'avance. Honnêtement, j'ai déjà essayé. Puis on dirait que je perdais un petit peu ce petit côté plus spontané-là que j'aimais. Puis je me retrouvais un peu à courir après, tu sais, je sais pas trop. On dirait que j'arrivais pas, là, tu sais, à faire ma création de contenu de cette façon-là. Fait que là, j'y vais plus une semaine d'avance, puis, ben, un peu comme quand je fais ma planification de repas, là, tu sais, des fois, j'interchange des repas, mais, tu sais, là, j'interchange du contenu. Fait que j'y vais de cette façon-là. j'essaie d'avoir un thème aussi par semaine, là. Fait que c'est, moi, j'ai comme des thèmes principaux, dont l'alimentation intuitive, la nutrition slash alimentation plus santé, si on veut. J'ai aussi là, bon, l'aspect plus bien-être, qui n'est pas nécessairement en lien avec la nutrition. Mais que je peux parler, par exemple, je ne sais pas moi, de l'activité physique, de l'importance de prendre soin de soi, des choses comme ça. Fait que j'ai comme des grands thèmes comme ça. Puis après ça, ben, j'essaie là, de publier au moins trois fois par semaine. Fait que moi, mes journées, là, si on veut, où je partage mon contenu, c'est vraiment le lundi, mercredi, vendredi. Fait que moi, j'ai ces journées-là fixes en tête. Puis j'essaie de sortir toujours une publication là, ces journées-là. Puis le jeudi, j'ai comme une vidéo là, qui revient à chaque semaine, qui est comme des bons spéciaux. Là. Fait qu'à chaque semaine, je partage les bons spéciaux de la semaine. Puis je donne des idées de recettes aussi à partir de ces spéciaux-là. Fait que pour aider les gens justement à bien manger à faible coût. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime aussi. Fait qu'en dehors de ça, je fais comme trois autres publications. Fait que c'est de cette façon-là que je fonctionne.
Puis ça passe vraiment par ce canal-là, la conversion. Si on veut, tes clients te découvrent via... Je pense que t'es principalement active sur Instagram.
Oui. Ouais, okay. Ouais, principalement sur Instagram. J'en fais un petit peu sur TikTok, là, mais honnêtement, je suis pas tant... je suis pas si bonne que ça pour être régulière là-dessus parce que moi, j'aime beaucoup les photos aussi. Tu sais, je fais pas juste des reels. Fait que c'est sûr que je suis peut-être moins régulière là, sur TikTok, là, mais honnêtement, c'est pas grave. J'en fais aussi sur ma page Facebook. Fait que tout ce que je publie sur Instagram, je le publie sur Facebook aussi. Je sais que c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Il faudrait que je revoie ça. Je suis pas... la meilleure côté médias sociaux non plus. Là. Je fais comme de mon mieux, si on veut.
Mais si ça fonctionne pour toi, puis si c'est efficace, on n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit une stratégie, c'est plutôt pour s'inspirer, je pense. Je pose la question vraiment dans cette optique-là parce que je réalise, ça fait longtemps que je suis consciente de ça, mais il y a autant de possibilités stratégiques qu'il y a d'entreprises, puis on fonctionne tellement pas tous de la même façon, puis des fois, on gagne à découvrir un peu comment les autres fonctionnent pour faire « OK, ben moi, ça marche pas en ce moment, mais Audrey, c'est ça qu'elle fait. Ben, je pourrais peut-être m'en inspirer un peu pour voir comment ça pourrait s'appliquer à mon cas. Ou peut-être que je pourrais m'inspirer un peu de la stratégie d'Audrey puis un peu d'une stratégie de quelqu'un d'autre. » C'est comme ça qu'on bâtit un peu notre propre stratégie, je crois.
Oui, je pense aussi, honnêtement. Là. Puis, tu sais, je me souviens quand j'ai commencé à faire la création de contenu, tu sais, pour vraiment... c'est vendre mes services, pour me faire connaître, pour partager aussi mon savoir en nutrition. Je me souviens que j'étais très rigide dans ma stratégie, que c'était comme, il faut absolument que ce soit ça. Puis, tu sais, mettons que je me sentais pas bien une journée, bien là, si j'avais prévu une publication que je parlais de l'importance de je sais pas quoi, tu sais, mettons, c'était super positif, puis là, moi, je sais que je filais pas bien aujourd'hui. J'étais comme rigide quand même là-dessus, puis maintenant, j'essaie d'aller, c'est pour ça le petit côté plus intuitif, là, j'ai envie de dire, si je file pas bien une journée, mais je m'autorise à pas partager cette journée-là, ou à changer mon contenu peut-être pour être un petit peu plus authentique, parce que pour moi, c'est quand même quelque chose qui est important aussi, même si ça reste que, je me verrais pas, là, faire une story en pleurant, ou tu sais, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Là.
Oui.
Je pense que c'est quand même important de rester transparent à travers les médias sociaux. Fait que c'est ce que j'essaie de faire aussi quand même.
Mais c'est parce que je pense que c'est important pour n'importe quelle entreprise, mais dans une entreprise de service où ce qu'on offre, c'est nous-mêmes. Je pense que si on n'est pas authentique, c'est sûr qu'à un moment donné, les gens vont comme déceler que « waouh, elle n'est pas tout à fait sa traque, fait que on dirait qu'on s'attache moins aux gens qui vont nous proposer un contenu parce que c'est quelque chose qui marche ou parce que c'est ce qui était prévu, mais au final, tu sais, c'est pas quelque chose qui ressemble tant que ça. Fait que je pense que c'est une bonne chose à garder à l'esprit, de dire, regarde, je m'autorise, comme tu dis, à bifurquer si c'est pas une bonne journée pour faire ce genre de contenu-là, puis c'est correct, tu sais, faut pas donner un break des fois, là.
Oui, mais tu sais, parce que la création de contenu, quand c'est nous qui le fait, c'est tout le temps. Là, c'est, ouais. Faut pas l'oublier, c'est des stories, des publications. Puis même si on aime ça, c'est comme sans arrêt. Là. Fait que quand il y a des choses qu'on vit, ben, ça reste que derrière l'entreprise, quand même un humain. Oui, puis même, c'est drôle qu'on en parle parce que là, récemment, je me suis comme permis une petite semaine de congé de publication, tu sais. Parce que là, j'avais eu un lancement, puis tout ça. Fait que là, je me suis dit, bon, je pense que j'ai juste besoin d'un petit, une petite pause de publication là, cette semaine. Puis avant, tu sais, j'aurais vraiment, justement, angoissé par rapport à ça. Puis maintenant, je suis vraiment plus dans le lâcher-prise, tu sais. Je me dis, regarde, ça, c'est ça, puis ça sera autre chose après une semaine. Là, à un moment donné, faut pas virer fou.
Exactement. Ouais. Puis je trouve ça intéressant aussi que tu abordes le fait que derrière l'entreprise, ben il y a un humain. Puis je veux savoir comment tu deals avec ça, toi, l'espèce de équilibre ou pas, l'harmonie un peu entre la vie personnelle et professionnelle.
Oui, je pense que c'est beaucoup mieux que ça a déjà été. C'est pas parfait, je dois dire, là, en toute transparence avec toi, mais je pense que je ne vise pas non plus la perfection. Là. Mais c'est beaucoup mieux. T'sais, avant, je travaillais de soir, de fin de semaine, puis je me sentais comme un peu coupable quand je ne travaillais pas. Là. Fait que c'était, encore une fois, on dirait que j'ai des petites tendances à aller dans les extrêmes avant de revenir à mon état d'équilibre. Mais maintenant, on dirait que je... Comment je pourrais dire? J'ai un meilleur équilibre, du moins, là, avec mon quotidien. Là. Fait que, je sais qu'après une certaine heure, c'est terminé. Ou je sais que quand j'ai des semaines plus chargées, bien, après ça, je vais quand même essayer d'avoir des journées plus de congés et tout ça. Ce que je trouve difficile en ce moment, c'est justement de m'autoriser des congés pendant la semaine. Parce que je sais que j'ai des tâches qui m'attendent. T'sais.
Ouais.
C'est comme là, par exemple. Moi, j'aime ça prendre congé pour ma fête, OK? Petit détail, là. À chaque année, je fais ça. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça tellement niaiseux, mais moi, je trouve ça full important. Puis, ma fête s'en vient, puis j'ai pris congé. Mais là, tu sais, on dirait qu'il y a une petite partie de moi qui anticipe parce que c'est des semaines qui sont quand même assez occupées, tu sais. Mais je pense que c'est aussi correct, tu sais, de s'autoriser à prendre congé. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est pas parfait parce qu'il y a quand même une petite culpabilité, mais... Je réussis quand même à fermer mes médias sociaux pendant la fin de semaine, à ne pas répondre aux messages, à ne pas regarder mes courriels. Fait que ça, je suis vraiment contente là, avec le temps. J'ai appris à trouver cet équilibre-là. Là, ouais.
Puis est-ce que c'est venu juste par l'expérience puis le fait que tu trouvais ça tough de travailler 7 jours sur 7? Ou bien t'as-tu mis en place comme des outils ou quoi que ce soit pour t'aider par rapport à ça?
Oui, bien en fait, c'est que j'avais l'impression que je décrochais jamais. C'est comme si ça roulait tout le temps. Puis là, j'avais oublié de penser à répondre à un courriel, j'avais oublié de telle tâche. Puis là, à un moment donné, c'est que je suis en famille, je suis en train de faire un souper avec mes amis, avec ma famille. Fait que là, c'est important d'avoir des moments de pause aussi. Fait que là, j'ai mis en place, par exemple, j'ai un message automatique sur mes réseaux sociaux qu'après une certaine heure. C'est un peu tannant, là, je dois dire, parce que là, tout le monde reçoit ce message-là quand il m'écrit dehors des heures de bureau. Mais pour moi, c'est super important parce que, ça a l'air de rien, mais par exemple, c'est quelqu'un qui m'écrit un message privé pour un rendez-vous, pour une consultation, mais moi, j'ai pas accès nécessairement à mon logiciel de rendez-vous à ce moment-là. Je peux pas lui donner son rendez-vous là, pendant la fin de semaine. Sinon, ça implique qu'il faut que j'ouvre mon logiciel, que je lui propose des dates et tout ça. Fait que moi, je me suis dit, non, je veux pas faire ça pendant la fin de semaine. Ça arrive des fois que spontanément, je fais des stories et tout ça. Fait que dans mon message, ça le dit. Ça se peut que je fasse des stories pendant en dehors de mes heures de bureau, mais je vais répondre juste quand je vais être de retour au bureau, là, tout simplement. Fait que pour moi, ça passe par là, de mettre ses limites aussi de cette
puis
façon-là.
Est-ce que tu as désactivé les notifications aussi puis tout ça? Ouais,
absolument.
Là, ça change tout, là.
Ça change tellement tout. Pour vrai, là, s'il y en a qui nous écoutent en ce moment puis qui hésitent à désactiver les notifications, là, honnêtement, ça change tout, 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 là.
Ouais. Puis,
moi, ma crainte au début, avant de désactiver les notifications, c'était de me dire, ah, mais là, je vais peut-être manquer un message. Tu sais, ça va peut-être être super long avant que la personne, je vois qu'elle m'a écrit un message. Mais tu sais, en bout de ligne, là, les réseaux sociaux, on y va plusieurs fois par jour.
Ben,
c'est sûr là, que tu vas voir là, que tu as un nouveau message. Fait que,
Ouais, ben, c'est drôle que tu dises ça parce que moi, je me rappelle que comme les premiers mois après avoir désactivé toutes mes notifications, c'était problématique parce qu'on dirait que j'allais plus souvent voir Instagram, Facebook et tout parce que je me disais, j'ai pas la notification, fait qu'il faut que moi-même, je prenne l'initiative d'aller voir. Fait que là, c'était vraiment contre-productif, là. C'était vraiment mieux d'avoir des notifications. Oui. Sauf qu'à un moment donné, avec le temps, j'ai comme réalisé que oui, j'allais voir vraiment souvent, mais que 90% du temps, il n'y avait aucune notification anyway. Ouais. J'avais aucun message. Fait qu'on dirait qu'à un moment donné, je me suis comme détachée puis j'ai fait, ben regarde, je sais que je vais y aller anyway, au moins le matin, puis au moins le, en début de journée puis en fin de journée de travail. Je pense que c'est
suffisant. Mais vraiment. Oui, c'est ça. À un moment donné, là, c'est ça. T'sais, on va répondre aux gens. Je pense que dans un délai là, raisonnable, là, à un moment donné, faut s'attendre aussi à ce que ben on n'est pas toujours répondu à la minute près. Puis, ça aussi, j'ai eu peur à un moment donné de perdre des clients parce que je ne répondais pas dans l'immédiat. Parce que moi, il y a peut-être un petit délai de 24-48 heures avant que je réponde, mettons, un courriel ou quelque chose comme ça. Puis après ça, j'ai comme juste lâché prise là-dessus. Je me suis dit, si la personne veut vraiment qu'on fasse affaire ensemble, ben tu sais, ça sera ça. Puis peut-être que j'en ai perdu des clients. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Moi, c'est ma limite aussi. Puis je veux me respecter là-dedans.
Ben oui, puis moi, je me dis, dans ces cas-là, les clients perdus parce que tu répondais pas assez vite, ça aurait probablement été des clients problématiques si tu avais travaillé avec eux, parce qu'il y aurait tout le temps, tu sais, ils se seraient attendus à ce que tu répondes super rapidement tout le temps. Ils auraient peut-être essayé d'en obtenir plus que ce que tu es capable d'offrir dans n'importe quoi. Fait que tu sais, des fois, tu dis, bah, c'est peut-être une bonne chose qu'il se soit éliminé naturellement un peu de ta liste. Puis après ça, ben, tu travailles avec des gens qui le savent que tu vas répondre, mais tu sais, un délai de 24 à 48 heures, je veux dire.
On s'entend.
C'est vraiment pas la fin du monde. Puis je me rends compte aussi que les gens sont de plus en plus corrects avec ça. Ben, ils sont pas de plus en plus corrects. Je me rends de plus en plus compte qu'ils sont corrects avec ça dans le sens où, tu sais, des fois, je réponds dans l'heure qui suit ou dans les... Peu importe, dans la même journée, puis les gens, « Ah, réponse rapide, merci! » Je suis comme, « Ah, OK, mais moi, je trouve que c'est une réponse longue. Oui. » Je trouve que c'est une réponse rapide, fait que ça aurait pas été grave que je te réponde juste demain matin.
Mais oui, oui, c'est ça. Puis je suis curieuse, Mélissa, de savoir, toi, comment tu gères ça, l'aspect, justement, vie personnelle, entreprise, tu sais, tantôt, je te parlais comment que... c'est que, bon, je désactivais mes trucs. Toi, comment tu deals avec ça au quotidien?
Ben, moi, je te dirais que même si j'adore ce que je fais, j'ai quand même une bonne facilité à décrocher. Ouais. Puis je pense que ça, c'est ce que je dis toujours à mes amis qui ont des entreprises, je pense que c'est d'avoir d'autres choses qu'on aime, autres que l'entrepreneuriat, qui fait en sorte que, tu sais, on a hâte que la journée se termine, non pas parce qu'on est tanné de notre journée de travail, mais parce qu'on va passer à une autre activité qu'on aime.
Ouais.
Fait que moi, ça passe beaucoup par ça, ce qui fait en sorte que moi, tu sais, j'ai pas vraiment d'horaire de travail. Non, c'est pas vrai. Gros mensonge. J'ai un horaire de travail assez typique, mais de plus en plus, je me permets d'être lousse avec ça parce que dans la dernière année et demie, j'ai réalisé que moi, les après-midi, c'est très rare que je me sens productive puis que je suis vraiment... Tu sais, une tâche qui me prendrait 15 minutes va me prendre une heure en après-midi. Fait qu'aussi bien la faire à un autre moment. Donc, maintenant, souvent, l'après-midi, soit... on est l'après-midi actuellement au moment où on enregistre ça. Fait que soit ça va être des entrevues de podcast ou tout simplement faire autre chose puis revenir en soirée parce qu'on dirait que là, d'avoir comme coupé ma journée en deux, ça fait qu'en soirée... Moi, je deviens super créative, puis tu sais, c'est rare que je vais être plus dans les tâches administratives en soirée, parce que ça, je trouve ça un peu chiant à faire passer 4 heures, là. Mais je dirais que, tu sais, c'est rendu un peu ça mon beat que j'ai trouvé. Fait que, tu sais, juste ça aide, le fait de ne pas avoir de notifications, comme on disait, ben ça change tout pour moi, parce que justement, les moments où je fais autre chose, ben je fais autre chose, puis ça sonne pas aux 2 secondes sur mon téléphone. Fait, avoir des activités que j'aime qui sont différentes de l'entrepreneuriat, d'être très, très flexible sur mon horaire, tu sais, pour moi, c'est un gros défi dans le sens où... Ben, puis, tu dis que tu écoutais le podcast depuis le début, puis je sais que, voilà, quelques années, là, je disais, ah, moi, là, je travaille vraiment sur un horaire un peu de salarié parce que je fais du 8 à 4 pas mal. J'essaye de décrocher le soir, la fin de semaine. c'était efficace, mais je réalise que maintenant, tu sais, c'était pas nécessairement ça que je voulais. Fait que j'ai juste de me l'autoriser, de dire, ben regarde, cet après-midi, tu vas enregistrer un podcast, après ça, tu vas aller t'entraîner, tu vas peut-être lire un peu, puis tu reviendras travailler ce soir. On dirait que j'ai fait comme, ah, ben oui, j'ai le droit de faire ça, c'est moi la boss.
Ben oui, mais puis tu dis ça, là, puis pour vrai, ça m'inspire vraiment ce que tu dis, parce que moi, j'avoue que je suis encore un peu prise dans mon horaire de salarié, si on veut. Tu sais, j'ai comme l'impression qu'il faut que je travaille de 9 à 5, puis je sais pas pourquoi. Tu sais, dans le fond,
ben, non,
on n'est pas obligé.
On est vraiment plusieurs hein, à être dans cette situation-là. Puis tu sais, moi, c'est quand même récent, puis je te dis pas que je le maîtrise à 100% non plus. Tu sais, ça arrive qu'il y a un après-midi que je suis en train de faire du vélo stationnaire, puis je suis comme, mais qu'est-ce que je fais? Je suis supposée à être au bureau. Mais là, je suis comme, hey, non, pouf, reviens.
Oui,
t'as le droit de mettre ton vélo une petite heure, là, c'est pas grave. Fait que, tu sais, c'est juste de réaliser que c'est nous le boss. Puis que, moi, le fait d'avoir catché aussi qu'une tâche, comme j'ai tantôt, de 15 minutes me prend une heure dans l'après-midi parce que c'est pas un bon moment, j'ai fait, hein, je perds du temps, vraiment.
Mais
t'sais,
oui.
C'est pas juste une sensation de perte de temps, c'est un fait que je perds du temps. Fait que, j'ai décidé que ça, c'est fini. Quand je sens qu'il y a une tâche qui s'étire puis qui prend plus de temps que normalement, je suis comme, ah, ben c'est juste pas le bon moment pour la faire.
Exact.
Dans certains cas, on n'a pas le choix. T'sais, on a quand même des clients, on a des comptes à rendre, on n'a pas de boss, mais il y a des choses, on a des deadlines. Mais la majorité du temps, même si je le déplace à ce soir ou à demain matin, c'est pas la fin du monde.
Oui, exact. Il faut bien qu'il y ait des avantages. Tu sais, être à son compte, c'est aussi ça. C'est la liberté d'horaire.
C'est ça. Moi, il y a un bout où je me disais, ben, tu sais, dans le fond, un mercredi après-midi, même si je prends congé, les gens autour de moi travaillent. Fait comme, ça sert à rien, mais en même temps, c'est fun de juste faire des choses pour moi aussi. Juste, comme, ne pas travailler, puis c'est ce qui fait qu'après ça, on revient. Puis on est, en tout cas, moi, je suis souvent plus motivée, plus créative, surtout, parce que, justement, je me suis, comme, sortie de ce cadre-là, puis là, je reviens, puis je suis comme, OK, je me suis réénergisée, je me suis réinspirée, parce que, tu sais, souvent, je travaille pas, mais je vais écouter des podcasts, puis là, oups, ça va me donner des idées, puis ça, moi, je vois pas ça comme quelque chose de négatif. Tu sais, oui, ça n'arrête pas de tourner dans notre tête quand on est entrepreneur, puis oui, c'est un peu du 24/7, mais l'aspect des idées qui pop ici et là, moi, ça, je trouve ça super le fun. Fait que ça me dérange pas, mais je me développe des outils pour pas que je parte, là, tu sais, que oh, j'ai une idée, fait que là, je m'installe à mon ordi, puis j'exécute tout ça. Je suis comme, non, je prends mon ciel, je peux prendre une petite note, on y revient demain matin, tu sais.
Oui. C'est important de le noter, hein, parce que souvent, je ne sais pas si c'était comme ça, là, mais moi, avant, je me disais, ah, je vais m'en souvenir, tu sais, je vais m'en souvenir, c'est ça que je veux, tu sais, que je veux mettre ça dans ma création de contenu. Ou... Puis là, finalement, tu dis, ah, c'est quoi donc que je voulais faire? C'était tellement une bonne idée, tu sais. Fait que d'avoir un petit dossier note avec nos idées, je pense que c'est une bonne idée.
Ben oui, moi, souvent, là, ce que je fais, puis c'est un truc très concret, là, mais moi, je travaille avec Asana pour la gestion de projet. Toi aussi?
Non, je travaille pas avec ça, mais je connais, plus ou moins, mais je sais c'est quoi.
Mais tu sais, moi, souvent, pour être sûre de pas oublier mon idée, puis d'être sûre que demain, je vais prendre du temps, au moins pour la détailler un peu, ben ce que je fais, c'est que j'ai Asana sur mon téléphone, puis je vais venir vraiment me créer une tâche avec cette idée-là que je vais céduler pour le lendemain. Fait que là, le lendemain, j'arrive, puis j'ai cette tâche-là, fait que je prends un petit 5-10 minutes pour là venir vraiment me poser puis la détailler. Puis des fois, j'ai écrit des affaires que ça fait pas trop de sens. Fait que je vais venir vraiment comme clarifier l'idée. Puis s'il faut que je l'exécute aujourd'hui, je vais l'exécuter aujourd'hui, mais sinon, je vais la reporter à plus tard. Mais au moins, tu sais, le squelette est là, puis l'idée n'est pas perdue au final. Oui, fait que moi, au début, je refusais d'avoir Asana sur mon téléphone parce que je me disais, oh non, c'est du travail sur mon téléphone, j'essaie d'en avoir le moins possible, mais j'ai réalisé que c'était mieux ça que d'aller fouiller dans mes notes. Puis, tu sais, des fois, je me souviens pas qu'hier soir, j'ai eu une idée puis que j'ai pris une note. Puis là, je la retrouve 3 semaines plus tard. Puis, je suis comme, ah, ça me dit plus rien.
Mais c'est vrai. C'est vrai, je devrais faire ça, moi aussi, plus d'avoir une certaine organisation autour de ça.
Ouais. Ben, moi, c'est pas mal mon dada, là, toute l'organisation puis la planification. Fait que j'essaye vraiment, comme, d'optimiser ça. Puis, c'est ce qui fait probablement que c'est facile aussi, plus de décrocher parce que, tu sais, je note tellement tout. Que mon cerveau, il est pas, tu sais, j'ai pas une charge mentale entrepreneuriale qui est si immense que ça. Tu sais, oui, comme n'importe qui, là, je suis pas complètement libérée, mais il y a quand même Il y a Asana qui joue vraiment une grande portion de mon cerveau, je te dis.
Ouais, c'est ça. Mais quand tu sais que tu délègues ça, c'est comme si tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est comme si tu dis à quelqu'un d'autre, « Ah, ben il faut que je fasse ça, prends-la en note, tu sais, puis c'est tout. »
Oui, c'est ça. Exactement, exactement. Puis là, ben oups, on peut l'enlever de notre tête, ouais. Alors que, tu sais, quand on l'a pas mis à quelque part, on dirait que c'est tout le temps dans notre tête parce qu'il faut donc ben pas l'oublier. Puis c'est là aussi que ça crée une espèce d'épuisement mental parce que... Il y a comme toutes ces idées-là qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent, en plus des tâches qu'on a à faire au quotidien. Ouais. C'est ce qui fait que beaucoup de gens vont trouver ça super difficile mentalement, puis je le comprends à 100%.
Oui, ouais, il faut se donner des trucs. Puis je pense que tu parlais tantôt d'organisation, mais ça, c'est quelque chose, c'est que je pense que ça s'apprend. Là. Ben, tu sais, si, mettons, là, je me reporte à mes débuts, là, j'étais vraiment pas quelqu'un d'organisé, là, moi, dans la vie, là. Ben, en fait, pas vraiment, là, pour, tu sais. Puis, avec le temps, c'est justement, on développe des stratégies pour être mieux organisé, pour que ça fasse du sens, c'est pour qu'on ait quand même un horaire. C'est ça, je pense que ça s'apprend d'être organisé, puis on ne naît pas organisé, on le devient, je pense.
Là. Ah, mais tellement, parce que, tu sais, là, je le dis que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais comme toi, là, moi, à mes débuts, là, ma façon d'offrir mes services, c'était zéro uniforme. Fait que ça faisait en sorte que souvent, j'étais comme, bon, je suis rendue où, là, dans mes étapes? Mais là, maintenant, j'ai vraiment des procédures. Ça sonne super plate, mais moi, je trouve ça excitant d'avoir des procédures qui font que chaque client passe par les mêmes étapes dans le même ordre.
Oui.
Et moi, j'exécute les mêmes étapes toujours dans le même ordre. Fait que c'est tellement rassurant. Mais pour ça, on apprend un peu... On le fait parce qu'on apprend de nos erreurs ou de trucs, de petits irritants par le passé qu'on se dit, « Hey! » Je veux plus que ça réarrive, fait que je vais trouver des outils pour venir le faciliter.
Oui, vraiment. Puis c'est un peu ça aussi, être entrepreneur, tu sais, c'est des essais-erreurs. Hein, puis c'est sûr que tu échoues à certains moments, tu sais, puis ça fait partie de la vie. Il faut comme un peu accepter que c'est ça qui va te faire évoluer aussi, je pense. Hein.
Oui, bien, totalement. Puis ça m'amène à une question que j'ai le goût de te poser. Ouais. Là. C'est un peu plate de faire poser cette question-là parce qu'on n'a pas le temps d'y réfléchir, mais... Vite comme ça, qu'est-ce qui vient à l'esprit si je te demande la plus belle ou la plus grande leçon que tu as appris depuis que tu es entrepreneur?
Ah, mon Dieu! La plus belle et grande leçon que j'ai
appris. C'est un peu intense. Là. Une leçon en particulier que tu as envie de partager, sans que ce soit la plus belle et la plus grande.
Oui. Mais j'ai envie de dire, honnêtement, là, je pense que c'est important de faire ce qui nous rend heureux. C'est vraiment cliché, là. Mais moi, quand je suis partie à mon compte, là, il y a une de mes amies, parce que j'hésitais, là, tu sais, je savais pas, tu sais, je laissais quand même un emploi stable. Oui. Moi, j'avais pas vraiment de gens entrepreneurs, tu sais, dans ma famille. Ben, mon père a son entreprise, mais c'est son père qui l'avait, tu sais, qui l'avait parti avant, puis son père qui l'autre, tu sais. En tout cas, bref, c'est une entreprise familiale de génération en génération. Fait que, tu sais, mon père a repris ça sans nécessairement bâtir tout de A à Z. Ce qui lui enlève rien, là, on s'entend que c'est...
Non, non, pas du tout, mais c'est juste une réalité qui est complètement...
Oui, c'est ça. Exact. Là, je m'éloigne du sujet, mais bref, ça pour dire que j'avais pas vraiment, tu sais, d'autres personnes dans mon entourage qui étaient entrepreneurs, puis quand je suis partie à mon compte, il y a une de mes amies qui m'avait dit, tu sais, l'important, c'est que tu sois le plus heureuse possible, tu sais, que tu fasses ce que t'aimes puis ce qui te rend heureux, tu sais, puis on dirait que quand on se reconnecte à ça, je sais pas, je trouve que ça fait tellement de sens parce qu'on est souvent dans le rationnel, puis tu sais, « Ah, mais non, mais là, je vais peut-être manquer de sous, je vais peut-être, tu sais, qu'est-ce qui va arriver si ça ne marche pas, puis qu'est-ce que les gens vont penser, puis tu sais, dans le fond, juste se donner le droit de l'essayer, puis, tu sais, d'essayer d'être le plus heureux possible dans ce qu'on fait, parce qu'on passe tellement de temps, tu sais, à travailler. »
Oui.
Fait que c'est ça, je pense que c'est important d'avoir un emploi, du moins, qui nous rend heureux la plupart du temps, parce que je pense que c'est normal d'avoir des tâches qu'on aime moins, d'avoir des moments où c'est plus difficile, mais si, un peu comme dans une relation, tu sais, tu chicanes avec ton chum des fois, tu t'obstines, il y a des petits moments moins de fun, tu sais, mais si la majorité de la relation te rend pas heureux, tu sais, je pense que c'est important de, ben, c'est ça, de m'amener faire des changements ou c'est ça, oui. On comprend.
Ah, mais je peux pas être plus d'accord, puis tu sais, c'est souvent... Bien, probablement que toi aussi, là, c'est souvent dans les moments de doute et les moments plus difficiles, c'est à ça que je me ramène. Je suis comme, au quotidien, plus souvent qu'autrement, je suis contente de faire ce que je fais. Puis, ce qui est intéressant dans le fait qu'on a eu un emploi par le passé, c'est qu'on a une espèce de comparaison. Oui. Puis, moi, je me dis tout le temps, je retournerais-tu là? Non? Bon, ben OK, on va accepter les petits désagréments qui font qu'aujourd'hui, c'est une journée difficile, mais que demain, ça va sûrement être correct.
T'sais. Exact. Oui, c'est ça, exactement. Oui. C'est de vivre, c'est ça, de regarder l'ensemble de la chose, puis de aussi s'autoriser à, bien, tu sais, on en a parlé tantôt, mais s'autoriser à changer. Tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, ce qu'on fait en ce moment, ça ne nous allume plus, tu sais, puis qu'on veut juste changer de domaine ou changer de, tu sais, ou même retourner à ce qu'on faisait avant. Tu sais, ça se peut là, que finalement, on se rend compte que, bien, c'est ça qui va nous rendre heureux, tu sais, puis
oui.
Ça serait bien correct, là, tu sais, il n'y a pas, on est humain, on évolue, puis c'est ça.
Ouais, je suis d'accord, puis je trouve que c'est la parfaite façon de rapper cette discussion-là. Merci tellement, Audrey. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux juste nous dire rapidement où on peut te suivre?
Oui, bien, je suis plus active sur Instagram, comme on disait tantôt. Fait que mon nom Instagram, c'est audreylagacé.nutrition. Sinon, j'ai une page Facebook aussi professionnelle, c'est Audrey Lagacé Nutritionniste. Puis mon site web, c'est audreylagacé.com.
Parfait! Je vais tout mettre ça aussi dans les notes du podcast. Donc, je vous invite à aller suivre Audrey et je te remercie beaucoup d'être venue jaser avec moi aujourd'hui.
Bien, merci à toi, Mélissa.